Donc, en ce début d'année 2021, Bernard nous a invités à avoir une sorte de fil conducteur autour du verset de Luc 22, 19, où Jésus, parlant de la scène du repas du Seigneur, dit « Faites ceci en mémoire de moi », avec le sens d'être imitateur de Christ. De faire ce que Christ fait, de dire ce que dit Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais ensemble aborder avec vous ce thème où Jésus nous dit « Soyez en paix, comme moi je suis en paix ». Et j'ai mis un petit sous-titre « Vaincre l'inquiétude et avancer en sécurité avec Jésus ». Dans les temps troublés. On va lire ensemble, et alors je vais voir si la télécommande fonctionne par exemple.
Les ados, vous venez avec moi ?
C'est pas sûr, a priori ça fonctionne pas, c'est pas grave, est-ce que tu peux passer s'il te plaît, Pascal ? Je vous ai mis une petite photo. C'est joli, hein ? Est-ce qu'il y en a qui sauraient deviner où c'est ? C'est pas la mer morte. Oh, la mer morte, c'est moins... Mais c'est pas très loin. Enfin, c'est pas très loin. C'est en même région. Oui, oui, c'est le lac de Galilée. On y est allé en 2012. Alors, on dit le lac de Galilée, c'est plus une mer intérieure, en fait. Hein. C'est assez grand, on voit peut-être sur la troisième. Est-ce qu'il y en a qui sont allés en Israël, ici ? Ouais. Vous y êtes peut-être allé, non ? Ouais, hein. Voilà, c'est le lac de Galilée. C'est joli, hein ? On va lire un verset dans Marc, pour ceux qui ont leur Bible, chapitre 4. Voilà, alors c'est écrit un petit peu en petit, j'espère que vous arriverez à lire, mais sinon je vais lire quand même. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac de Galilée. » C'est pour ça qu'il y avait une photo. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, Jésus, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus !»« Et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Pour que même le vent et le lac lui obéissent. » Le contexte dans lequel nous sommes en ce moment ressemble un petit peu à ce lac agité. Ça donne un peu l'impression qu'il y a encore quelques mois de ça. On vivait tranquillement et puis soudainement, quelque chose s'est levé de complètement inattendu. Et puis ben, les circonstances ont changé radicalement. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont allés au lac de Galilée le savent, mais c'est ceux qui vivent là. Il vous explique qu'effectivement, le lac, la plupart du temps, il est extrêmement calme. Ça résonne un peu, hein ? Non ? Je ne sais pas si on peut y faire quelque chose, mais c'est un petit peu sourd. Il vous explique ça, que la géographie particulière du lac de Galilée fait qu'effectivement, il y a des tempêtes très soudaines, du vent en fait, qui se lèvent très très fort et qui agitent le lac et qui ensuite peut se calmer, mais il y a vraiment des tourbillons et des choses comme ça. C'est un lac qui est assez dangereux, c'est lié à sa géographie particulière. Quelques remarques à propos de ce texte. D'abord, ce qui me frappe, c'est la soudaineté. Alors, vous savez que parmi les disciples de Jésus, il y en avait qui étaient pêcheurs de métier, et notamment sur ce lac. Donc, je pense que s'ils avaient vu arriver la tempête, ils auraient peut-être dit bah, « c'est peut-être pas le bon moment pour aller faire un petit tour de barque ». Mais là, ça veut sans doute dire, c'est une interprétation que je fais, hein, mais ça veut sans doute dire qu'ils l'ont pas vu venir, en fait. Hein. Ou en tout cas, s'ils l'avaient vu venir, ils auraient au moins dit quelque chose, quoi. Mais a priori, ils disent rien, donc c'est que cette tempête, elle arrive de manière complètement inattendue et soudaine. C'est totalement imprévisible. Et puis on voit bien que c'est un peu hors de contrôle. N'est-ce pas ? Deuxième remarque, la menace est réelle. Le texte nous dit qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la barque. Je ne sais pas comment ils se sentaient, mais a priori, on a l'impression que les disciples se sentaient vraiment en danger, hein, et impuissants face à ces circonstances. Et la question qu'on peut se poser, moi je me dis, c'était vrai, ils étaient vraiment en danger. La question n'était pas de dire est-ce qu'ils avaient bien évalué la menace. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font avec cette menace. Quelle est leur attitude face à cette menace. Et quand Jésus nous dit « ne crains pas », il ne nous dit pas « il n'y a pas de menace ». Il nous dit quoi ? Il nous dit « je suis plus grand que la menace ». Amen. Non ? Dans le contexte actuel, Dieu a-t-il changé ? Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même dans le premier, dans le deuxième ou dans le troisième confinement. Amen. Non, je sais, on n'en veut pas, mais Jésus est le même, c'est ça qui est important. Jésus est le même. Alors, une autre chose que je voulais souligner, c'est cette phrase des disciples, « Et tu ne t'en soucies pas ». On a vraiment l'impression que Jésus ne s'en soucie pas. Il dort dans la barque. Est-ce que ça ne vous arrive pas, quand les choses sont hors de contrôle, de vous dire « mais qu'est-ce que fait Dieu ?» Non, il y en a qui ont la foi, je sais. Ben moi, je n'ai pas la même foi. Des fois, ça m'arrive quand on est dans une situation de crise, j'ai l'impression de dire « mais oh Seigneur, tu n'as pas remarqué qu'il y a un problème ?» Pourquoi on a cette impression-là ? Parce que Jésus est en paix. Jésus est paisible. Même dans le contexte dans lequel nous sommes, Jésus est paisible. Et les gens paisibles en situation de crise, on a l'impression qu'ils font rien ou qu'ils ne se rendent pas compte vraiment du danger. Mais c'est pas ça l'attitude de Jésus. Jésus, il est calme. Jésus, il sait parfaitement qui il est. Il sait parfaitement qui est son Père. Dans les situations de crise, Jésus est paisible et il n'est pas absent. Mais il n'a pas le même niveau d'inquiétude que nous. Quatrième point dans ce texte, Jésus met en avant une chose importante pour nous, c'est que la foi et la peur s'opposent. Il dit... Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ? L'inquiétude et la foi sont deux attitudes opposées. Ne crains pas. C'est une des injonctions de la Bible les plus fréquentes, n'est-ce pas ? Je ne sais pas combien de fois c'est écrit, mais il paraît que c'est écrit un très grand nombre de fois. Ne crains pas. C'est un encouragement permanent à croire, à faire confiance à Dieu. Ça veut dire que si nous restons dans l'inquiétude, nous refusons cette invitation. Et je ne parle pas simplement du fait d'avoir peur au sens de ressentir de la peur. Vous comprenez, je parle de l'attitude que cette peur va engendrer en nous, que cette inquiétude va engendrer en nous. Ne crains pas, ça ne veut pas dire si tu sens la peur, c'est pas bien. Ça veut dire juste, si tu as peur, viens à moi. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Ok, ça va. Non, mais sinon, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. J'ai besoin que vous soyez d'accord avec ça. Donc, l'inquiétude s'oppose à la foi. Et encore une fois, ce n'est pas le fait de minimiser le danger que Dieu nous demande. C'est de maximiser Dieu. Cinquième remarque sur ce texte, c'est le dernier passage que j'ai mis en jaune. Les disciples ne connaissent pas Jésus. Qui est donc celui-ci? Qui est donc cet homme? C'est étonnant. Je trouve que c'est étonnant cette façon qu'ils ont de dire. On a l'impression qu'ils découvrent qui est Jésus. Donc Jésus a calmé la tempête, il s'est levé, il a ordonné aux éléments de se calmer, il se calme, il dit « Wow, c'est qui ce gars qui peut parler au lac et qui est obéi, que le vent lui obéit ?» Quand même, ça me fait réfléchir. C'est les disciples, ils ont laissé leur vie pour le suivre. Ça veut dire quand même que quelque part, ils ont pressenti, ils se sont sentis appelés à quelque chose. On va dire, on va suivre Jésus, ok. Et à un moment donné, ils se disent, mais qui c'est Jésus? Ah bon? Jésus est capable d'une telle chose? Et parfois, on est un peu comme ça, si on est honnête. Parfois, on se demande si Jésus est vraiment capable de faire quelque chose dans notre situation précise. Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Jésus est capable de faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que Jésus est capable de te guérir? Est-ce que Jésus est capable d'amener ton mari, ton épouse à Christ? Est-ce que Jésus est capable d'aller chercher tes enfants qui sont perdus et de les ramener à lui? Est-ce que Jésus est capable de te donner le travail qui te manque? Est-ce que Jésus est capable de te garder du danger? Est-ce que Jésus est capable de changer, transformer ta vie entièrement? C'est une vraie question, c'est une vraie question. Et on sent qu'il manque un peu de maturité, les disciples, là. On est au début de l'évangile de Marc, donc ils ont suivi Jésus, mais ils sont en train de découvrir qui il est vraiment. Mais c'est très important, parce que ça veut dire que quand on est inquiet, finalement, c'est qu'on ne connaît pas vraiment Jésus. Et on a besoin d'apprendre à connaître Jésus. C'est une invitation à passer du temps, si vous n'aviez pas compris, avec lui, pour apprendre à le connaître. Pour apprendre à connaître qui il est vraiment et de quoi il est capable, en quelque sorte. Et ces temps de confinement, vous avez vu, c'était aussi une occasion pour nous de passer du temps avec Dieu. Vous savez que je suis le premier à dire qu'on vit des temps difficiles et qu'on va vivre de plus en plus des temps difficiles. Et qu'il faut se préparer en tant que chrétien. Parce qu'il y a des choses... Bon, vous le savez, quoi. Je vais pas épiloguer sur le sujet. Mais pour autant, nous ne devons pas résister à cette préparation que Jésus nous fait pour faire face à ces circonstances-là en tant que chrétien et pas tomber dans l'inquiétude. Jésus nous prépare aux tempêtes à venir. Alors, je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à se débarrasser de l'inquiétude? On va mettre le verset suivant, s'il te plaît. Donc Jésus nous explique, il dit, oui c'était le bon, « Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» Essayez de bien comprendre ce verset, j'ai passé un peu de temps dessus. En gros, Jésus est en train d'expliquer que s'inquiéter, c'est une fausse sécurité. Ça veut dire que quand on s'inquiète, en fait, on a une sorte de faux raisonnement, de mauvaise façon de penser, qui nous dit qu'on devrait pouvoir contrôler la situation. Alors, je le dis presque en souriant, mais c'est en fait assez terrible. Parce que si on laisse ça, l'inquiétude, envahir nos vies, moi je connais des gens, des chrétiens, qui sont dans leur vie littéralement rongés par l'inquiétude. Et quand je dis rongés, c'est qu'ils sont tellement inquiets de tout que ils sont angoissés, vous voyez. Ils dorment peu, ils peuvent être agressifs, mal dormir, et ils peuvent même avoir des maladies, vous savez, du corps qui sont liées à un stress intense, et leur stress, finalement, ça c'est connu, hein, c'est médical, hein, atteint leur chair en fait, et ils attrapent toutes sortes de maux, de corps, de choses crispées, de choses qui fonctionnent moins bien, parce qu'ils sont dans la forteresse, enfermés dans une forteresse d'inquiétude. L'inquiétude, c'est une sorte de poison en fait. Et en fait, pourquoi on fait ça ? Parce que c'est une façon de nous défendre. Si vous êtes face à un danger, votre réflexe, ça va être de construire un mur pour vous protéger de ce danger. En tout cas, essayez. Et ça, ça construit une forme de forteresse. Quelqu'un qui s'inquiète, il pense en fait qu'il peut être hyper vigilant et prendre des mesures et pouvoir contrôler les choses. Jusqu'à ce qu'il ait pu à peu près contrôler ce qui lui arrive, il est angoissé. C'est ça l'inquiétude. Donc Jésus nous explique. Mais en fait, c'est faux. C'est une illusion. Si tu penses que tu peux prolonger ta vie, si tu penses que tu peux te protéger de tous les dangers en étant inquiet, tu te trompes. Alors pour bien comprendre ça, je vais vous citer un sociologue français qui s'appelle Gérald Bronner et qui dit « La peur est une sucrerie pour notre cerveau ». En fait, notre cerveau, il aime bien avoir peur. Mais Jésus nous explique qu'il y a une tromperie dans le fait de penser pouvoir garder le contrôle sur les circonstances. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus vraiment contrôler ce qui se passe autour de nous. Donc, on pense qu'on peut garder le contrôle sur les circonstances, les personnes, qu'on peut échapper aux dangers, physiques, moraux, sociaux, économiques. En fait, l'inquiétude, c'est l'illusion du contrôle. Vous me suivez ? Ça va ? Je vais vous donner un exemple concret. L'année dernière, Manon était en troisième, donc j'en profite, elle n'est pas là. On ne dira pas ça, que je parle d'elle comme ça. Elle était en troisième. Elle était harcelée. Elle était menacée de mort par des élèves. Quand vous êtes papa, je peux vous garantir que ça réagit au quart de tour, du genre « je vais l'emmener, si je tombe sur eux, machin, etc. » Mais l'inquiétude que ça peut générer, ce genre de situation. Et franchement, j'avais peur pour sa sécurité, pour sa santé, pour son intégrité physique et morale. Alors, j'ai pris le temps de prier parce que je connais Jésus et j'ai dit « on va prier avec Manon ». Et puis je me rappelle d'une journée où elle était en larmes, elle ne voulait pas y aller. J'hésitais, j'ai dit, est-ce qu'on la retire du collège pour un temps et tout ça? Mais je sentais que, voilà, que Jésus disait, allez, fais-moi confiance, à moi. C'était pas facile, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'était facile. Mais j'ai fait ce choix et on a prié avec Manon le matin, en disant, Seigneur, c'est en toi qu'on se confie. Et on chasse les ennemis. Les ennemis, c'est pas les autres camarades, mais c'est tous ces esprits qui viennent contre elle. Et on croit en toi. Et elle est allée au collège. Et le soir, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais quoi? Mes camarades sont venus me voir et ont présenté leurs excuses. D'eux-mêmes. Eh ouais. C'est qui Jésus? Hein? C'est qui Jésus? Ouais, c'est ça Jésus. Amen. Oui, oui, on peut applaudir Jésus. Il n'y a pas de problème. Donc, l'inquiétude, cette hypervigilance qui nous entraîne vers des comportements contrôlants et oppressants, vous connaissez aussi ça, les environnements où on a bien construit toutes les règles, tous les murs qu'on ne peut pas franchir. Tout est bien sous contrôle. Ok? Vous connaissez ça? Quand quelqu'un est extrêmement contrôlant, et je le dis d'autant plus que c'est quelque chose duquel j'ai dû guérir dans ma vie, quand on est très contrôlant, c'est ça, c'est qu'on a peur en fait, qu'il y ait quelque chose qui nous échappe. Mais en réalité, Dieu nous explique, Jésus nous explique que on croit que les choses ne nous échappent pas, mais en fait, beaucoup de choses nous échappent, malgré tout. Donc des fois, on se garde dans l'illusion du contrôle. Mais le vrai contrôle, c'est qui l'a? C'est Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ok. C'est toxique, l'inquiétude. Et Christ nous dit, je crois, rien ne vient de bon de la peur. Ne restez pas dans l'illusion de l'inquiétude. Rien ne vient de bon de ça. Mon objectif ce matin, ce que Jésus m'a mis à cœur, c'est de dénoncer l'inquiétude à l'intérieur de nous. Et quand je dis dénoncer, c'est pas je vais dénoncer votre inquiétude, c'est je vais dénoncer la mienne, et que chacun puisse dénoncer l'inquiétude au milieu de nous, au milieu de lui, au milieu de ce qu'on vit. On veut chasser l'inquiétude. On veut pas vivre là-dedans. Moi, je veux refuser la sucrerie. Je veux plus vivre dans la peur. C'est pas ce que Jésus nous demande. Donc, j'aimerais vous inviter et réfléchir à ça. Comment je peux sortir de mes inquiétudes et de mes peurs? Et il y a de quoi? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de quoi. Peut-être même qu'il y a de l'eau qui rentre dans ta barque en ce moment. Qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de toi. Peut-être même que tu te sens en danger. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans des métiers où ils n'ont plus de travail. On se sent en danger, on se sent menacé. Jésus est là dans ta barque. Il ne dort pas vraiment, il est juste paisible avec toi. Appuie-toi sur sa paix, sois en paix comme il est en paix. Alors, ça c'est le problème, si je peux dire ça, c'est l'inquiétude. Maintenant, la solution, c'est quoi? Alors, il y en a beaucoup de choses que la Bible nous enseigne sur le fait de garder la foi, je vais vous en donner deux bien sûr, qui me semblent être vraiment des clés pour maintenant. C'est rigolo parce que j'étais en train de me dire que je me rappelle que j'avais prêché juste avant le premier confinement. C'était en mars de l'année dernière. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, d'accord? Je ne vais pas faire semblant de prophétiser. Mais on sait que les temps sont compliqués et Dieu nous donne des solutions, des clés pour affronter, pour faire face aux éléments contraires. Premier de ces éléments, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On va lire donc le verset suivant, on va le lire en entier avec le contexte. Voilà, merci. Car lui-même prend soin de vous. C'est dans 1 Pierre. Lors du premier confinement, Séverine cherchait du travail et puis elle a une petite mission d'un mois là, juste, c'était un peu avant hein, le confinement. Et puis ensuite, ils ont dit, oh, c'est bien, on va te garder encore un petit peu. Et puis il y a eu le confinement. Et puis là, l'entreprise a dit aux prestataires, non, là, il se passe un truc, toutes les missions s'arrêtent. Donc ils ont dit à Séverine, tu prends tes affaires et voilà, c'est fini. Et là, je peux vous garantir qu'il y a eu un petit moment, on se dit, waouh, confinement. On était au mois de mars, qui voulait dire qu'on supposait que ça durait quelques mois. Après, il y a l'été, c'est pas très bon pour les embauches, l'été, enfin en tout cas pour les postes un peu plus longs. Donc ça veut dire que jusqu'à la rentrée, on n'a pas de revenus, quoi. C'est chaud, Seigneur. C'est chaud. On a prié. On a refusé l'inquiétude, je me rappelle. On s'est positionné, on a dit, on choisit de faire confiance. Le soir même, l'entreprise la rappelle pour lui dire, on a une mission pour toi. Alors que le confinement venait d'être décrété, en télétravail, et elle y est restée plusieurs mois, 6 mois, 5 mois. Voilà. Ça, c'est ce que Jésus est capable de faire. Dieu se soucie de toi. Il prend soin de toi. Son regard est posé sur toi. Son cœur est rempli de compassion pour toi. Tu es son enfant. Est-ce que ceux qui sont parents parmi nous, ils savent bien qu'on se soucie de nos enfants? Il n'y a pas un moment où on se dit, non, bon, s'il lui arrive un truc, je m'en fiche. Ça n'existe pas. Et Dieu est un père encore meilleur que ce que nous pourrions être. Il se soucie de toi. Bien sûr qu'il se soucie, bien sûr qu'il se préoccupe, pas se soucie, hein, mais qu'il se préoccupe des dangers, de tes besoins. Et il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais, quelle que soit ta situation. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Celui-là, tu peux te l'afficher en grand si tu as de l'inquiétude. Tu te fais un poster dans tes toilettes, comme ça tu es sûr, tu sais, quand tu es assis là. On l'a appris en chanson avec les ados. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit vraiment souvent, il est toujours prêt à étendre son bras pour toi. Il est prêt à agir au temps nécessaire, à étendre son bras pour te secourir. S'il y a la nuit, il fera jaillir l'aurore. La bonne nouvelle, le soleil se lève quand même. Moi, j'aime bien aller prier au lever du soleil parce que ça me rappelle que quoi qu'il arrive, le soleil se lève. C'est une expression qui me rappelle que quoi qu'il arrive, Dieu est là. Dieu est toujours là. Il est là. Et même un jour, pourtant, le soleil ne se lèvera plus. Hein. Mais Dieu demeure. Il est même plus certain que le lever du soleil, encore. Tu es de sa famille, toi qui as choisi de le suivre. Tu es de son sang. On l'a dit tout à l'heure, on est du même corps. On est le corps de Christ. On est précieux pour lui. Alors oui, il a son regard posé sur toi, il ne t'a pas oublié. Oui, il va te secourir. Oui, il va t'aider. Oui, il te garde. N'en doute pas. Alors c'est quoi ton réflexe quand tu es en temps de crise? Quand les choses sont difficiles, est-ce que tu paniques comme l'ont fait les disciples? Hey, qu'est-ce que tu fais? On va mourir. Pourquoi tu dors? Où est-ce que tu vas vers lui, et tu dis, je me décharge sur toi de mon fardeau. Ouais, j'ai un fardeau. Tiens, Jésus, moi je repars libre. Je le laisse au pied de la croix et je repars libre de mon fardeau. Je repars pas avec. C'est ça qui est difficile en fait. Moi, je sais pas vous. Hein. Quand je vais voir Jésus et que je lui dis tiens, je te dépose quelque chose, j'arrive jusque là, j'y arrive. Mais des fois, je dis bon, ben, je vais quand même le reprendre puis je pars avec. Ah, c'est plus difficile de le laisser. Mais je crois que notre lutte là dans les temps qui viennent, ça va être celle-là, de nous réfugier en Christ. Vraiment, 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 vraiment. Réfugie-toi en Jésus. Même si parfois il faut attendre un peu, hein. Même si parfois il faut attendre une journée de plus. Quelle vie calme et sereine vous êtes appelés à vivre en laissant votre berger prodiguer ses soins envers vous. Menacer la tempête qui agite les flots de votre vie et intervenir toujours pour votre bien final. Je veux cette paix-là, moi. Je veux ce calme-là au milieu de la tempête. Et deuxième clé que je voudrais vous laisser ce matin, c'est avançons en sécurité avec Jésus dans notre barque. Et j'ai ressenti vraiment très très fort, très très fort, ce verset qu'on connaît tous, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset, c'est comme une clé à tourner. Il y a un début et il y a une fin. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a vos besoins, vos fardeaux, vos inquiétudes, mais il y a le royaume de Dieu et sa justice. Jésus nous dit, il y a une priorité. Bien sûr, nos soucis, on a l'impression que c'est le truc numéro un. Mais en fait, Jésus nous dit, c'est pas le numéro un. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc il y a un ordre de priorité. En premier, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Voilà la réponse de Jésus à l'inquiétude. Et je vous garantis que ça marche. C'est testé, approuvé, je l'utilise moi-même. Vous savez, c'est comme les vendeurs dans les foires. Hein. Mais non, je l'utilise à la maison. Donc c'est que ça marche, mon produit. Non, je blague. Ça marche, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on change nos priorités. On change notre regard. On demande à Dieu de changer notre regard sur les choses. On ne se focalise plus sur les dangers, sur les menaces, sur les besoins, sur les inquiétudes. On se focalise sur Jésus. Sur le royaume de Dieu qui est en marche, qui est en mouvement, qui est inarrêtable jusqu'au retour de Jésus. Mais c'est un choix. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Et le reste, vos besoins, les dangers autour de vous, Dieu s'en occupe. C'est ça que ça veut dire. Ça sera par-dessus, ça va être. Ça ne veut pas dire on s'en fiche. Ça veut dire... Ça va aller, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est une décision à prendre, et je crois vraiment que ce matin, c'est ça que le Seigneur nous demande, c'est de prendre une décision. Je change de regard. Mes inquiétudes, le royaume de Dieu. Mes inquiétudes, le royaume de Dieu. Moi, je mets mon regard ici. Ça ne veut pas dire que je m'en fiche, ça veut dire que Dieu s'en occupe. Qu'est-ce que nous cherchons en situation de crise ? Est-ce que nous cherchons nos propres intérêts ou les intérêts du Seigneur ? Une bonne prière à faire dans les moments que nous vivons, quand vous avez une mauvaise nouvelle, genre on va être confiné ou ce genre de choses. Seigneur, nous sommes en temps de crise. Qu'attends-tu de moi dans ton royaume pour cette période ? Et je vous invite vraiment à regarder à Dieu et à ses priorités dans les temps que nous allons vivre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? On voit qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire. On voit qu'est-ce que tel ou tel mouvement est en train de faire. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire ? C'est quoi ses priorités ? J'ai une conviction profonde que je veux partager avec vous. Mais là, comment il dit Bernard ? Là, c'est moi, quoi. Enfin, c'est une opinion. Donc, vous n'êtes pas obligé de le prendre tel quel. C'est un avis. Mais je vous la partage quand même. Ma conviction, c'est que l'Église, c'est-à-dire, l'Église, c'est nous, hein, c'est les personnes qui forment le corps de Christ, l'Église, est faite pour les temps difficiles. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour les temps où tout va bien. On est fait pour les temps où ça va moins bien. Je pense que c'est ce que veut dire le verset qui nous dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière, elle brille plus dans une pièce sombre qu'en plein jour. Ça veut dire que les temps que nous vivons sont des temps où nous sommes appelés à briller davantage, en fait. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas inquiets, si nous sommes remplis de la présence de Dieu, si tu dis, moi, je suis OK, je suis tranquille, j'ai le Seigneur. Toi, tu es inquiet, viens, je vais te montrer, je vais prier pour toi. Et on va demander au Seigneur d'intervenir dans ta vie. Et se soutenir les uns les autres, déjà. Mais aussi face au monde qui nous entoure. Bernard en a très bien parlé la semaine dernière et je vous invite vraiment à réécouter son message sur l'attitude vis-à-vis du monde. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. On ne peut pas être comme le reste des hommes inquiets de telle ou telle chose. On ne peut pas. Nous, on est appelés à briller. Et on a un choix à faire. Qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur dans cette période ? Je vous donne un truc comme ça que j'ai vu cette semaine. Il paraît que les sondages montrent une recrudescence de l'intérêt pour le spirituel depuis le confinement. Tout ce qui est spirituel. Alors le problème, c'est que c'est un peu... Hein, bien sûr. J'ai pas dit pour Dieu, j'ai dit pour le spirituel, hein, en général. Mais oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans une grande et grave introspection. Et c'est beaucoup plus sérieux qu'on ne l'imagine. Vous entendez peut-être parler des étudiants qui sont dans des situations de détresse. Il y a beaucoup de secteurs qui sont dans des situations de détresse. J'ai vu cette semaine, il y a une mosquée, je ne sais plus où, qui distribue des repas gratuits aux étudiants. Il y a des queues qui font des kilomètres. Des kilomètres d'étudiants qui n'ont même plus à manger. Il y a des occasions pour l'Église de briller. Et tout ça amène les gens dans une introspection. Ils se disent, mais c'est quoi le sens de ma vie ? Parce que je ne contrôle plus rien. Je ne sais plus où je vais. J'avais bien mes repères. Les étudiants, ils savent, là. Les étudiants, on ne sait plus. Mince, est-ce que je vais avoir un examen à la fin de l'année ? Est-ce que mon examen va valoir quelque chose ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc, beaucoup de gens sont en train de chercher. Eh oh ! C'est nous la réponse. C'est Jésus en nous. On est fait pour les temps comme ça. Est-ce que vous avez la conviction d'être un citoyen du ciel ? Est-ce que c'est une identité que vous vous êtes appropriée ? Regardez votre voisin et vous lui dites « Tu es un citoyen du ciel ». Et maintenant, vous faites la même chose. Vous faites la même chose et vous dites toujours à votre voisin, je suis citoyen du ciel. Non, mais je fais ça parce qu'on a besoin de se l'approprier. Hein ? C'est le moment de briller. C'est le moment de briller. C'est le moment de regarder à Dieu, de regarder à ce qu'il fait, à ses priorités. Et ça devrait nous balayer d'un revers de main. Et je vous garantis, c'est ça que je vous dis que ça marche. Quand vous fixez les yeux sur Jésus, on est rayonnant de joie, vous savez. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Tout le reste est balayé. Vos inquiétudes, elles vont prendre tout d'un beaucoup moins d'importance. Est-ce que ton inquiétude, ton sujet, a la même importance au regard de l'éternité ? Tu es là pour vivre quelques années, quelques dizaines d'années sur la terre, mais une éternité avec Dieu. Regarde à l'éternité, regarde au ciel, et tout le reste va pâlir. Et je crois vraiment que Jésus nous invite à la paix parce que c'est une clé pour nous, pour briller dans les temps que nous vivons. Et je voudrais juste laisser, je sais plus si j'ai mis un ou deux versets, mais on va voir, je me rappelle plus. Ce verset-là, Jésus dit « Je vous laisse la paix ». Je vous la donne. Je vous donne ma paix. C'est pas la paix des hommes. Je ne vous donne pas comme le monde donne. J'en profite parce que je peux pas m'en empêcher, mais vraiment, soyons vigilants. C'est très concret, hein, à ne pas diffuser l'inquiétude au milieu de nous, par exemple. Faut qu'on soit vigilant, faut qu'on veille les uns sur les autres. Est-ce que mon attitude diffuse la paix de Christ ou est-ce qu'elle diffuse l'angoisse et l'inquiétude ? Ça, c'est une vraie posture. Il y a beaucoup de fausses nouvelles. Il y a beaucoup d'opinions. Les pro-Trump, les anti-Trump, les complots, les vaccins, la 5G. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Moi, tout ça, je vais vous dire, c'est le monde. Je ne vous donne pas ça. C'est le monde, ça. Bien sûr, on vit dans le monde. Mais moi, je vis attaché à Christ. Je veux dire, j'ai les yeux fixés sur lui, sur ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de vous dire de vous faire vacciner ou non. C'est votre problème. Mais je sais que mon Dieu est suffisamment puissant pour me délivrer. Si jamais je ne fais pas le bon choix, moi, j'essaie de me focaliser à un moment donné sur le choix que Dieu me donne aujourd'hui. Sur le témoignage qui va être le mien. Je m'en fiche de savoir si Trump, il est... Ça m'est égal. Je prie pour les autorités, c'est ça que Jésus me demande. Je prie pour Macron, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je prie pour lui, parce que mon rôle, c'est de prier. Bien sûr, j'irai voter un jour, mais ça, c'est votre problème individuel. Mais qu'est-ce que Jésus vous dit à vous ? C'est quoi son actualité à lui ? Ne nous laissons pas aveugler par ces choses. La paix que Jésus donne, c'est pas ce que le monde donne. De toute façon, il donne pas de paix, le monde, et de moins en moins. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que j'ai mis un autre verset ou pas ? Je sais plus. Non, j'ai fini là. Ouais, c'est bien de finir là-dessus. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je voudrais qu'on prenne juste une seconde pour s'examiner par rapport à ces choses. Je vous redis juste, je fais un petit récap vite fait, mais bon, l'histoire de la barque, je pense que vous avez compris, mais les deux clés que je pense que Jésus nous donne dans cette saison, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, première clé. Donc si vous avez un souci, déchargez-vous. Et puis la deuxième, focalisez-vous sur Christ, sur le ciel, sur le royaume de Dieu et sa justice. D'accord ? C'est ça, ces deux clés-là. Se décharger sur lui de tous nos soucis et regarder au ciel. Je voudrais qu'on prenne quelques instants pour se mettre devant Dieu et demander cette paix déjà pour nous-mêmes. Et si... On va fermer les yeux, pas s'observer. Si tu as senti ce matin... que tu es dans l'inquiétude, mais que tu ne sais pas t'en sortir, tu dis oui, effectivement, je suis inquiet, et je ne peux pas m'en empêcher, ou je ne sais pas comment faire. Je voudrais juste t'inviter à lever la main à ta place, parce que l'idée, c'est qu'on prie les uns pour les autres. Et il ne faut pas avoir honte, hein. C'est pas la question. Moi, je vous avoue, il y a des moments où je suis super inquiet. Mais on a peut-être besoin d'une guérison et de la paix de Jésus dans ce domaine. Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint. Je sais, je le sais, il n'y a pas d'innocence dans ce message. Je sais qu'il y en a au milieu de nous qui ont de l'inquiétude. Je ne veux pas vous donner l'impression que c'est une mauvaise chose, que vous avez fait quelque chose de mal. Mais vraiment, il y a une invitation à la foi et à la confiance en Dieu. Et si c'est le cas ce matin, si c'est ton cas, vraiment, je t'invite à regarder à Jésus et à te décharger sur lui. Et à refuser, à dénoncer l'inquiétude dans ta vie. Seigneur Jésus, tu es là avec nous. Tu es présent et tu es puissant. Peut-être que nous ne te connaissons pas assez pour savoir qui tu es, alors dans ce cas, aide-nous à mieux te connaître. Mais en tout cas, nous choisissons, et moi je veux choisir, Seigneur, ce matin, et que plusieurs parmi nous puissent choisir de te faire confiance et de se décharger des fardeaux, de l'inquiétude. Seigneur, je ne suis pas fait pour être enfermé, inquiet, angoissé, susciter l'inquiétude autour de moi. Je suis fait pour... Je t'appartiens et je suis fait pour toi. Je suis fait pour t'adorer. Je suis fait pour te faire confiance, briller, aider mes frères et sœurs aussi qui en ont besoin. Et je te prie, Seigneur, que ta paix que tu nous as laissée, on puisse s'en saisir maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous voulons nous saisir de la paix que tu nous donnes. Tu es la paix. Tu nous donnes la paix. Pas la paix du monde. Ta paix à toi. Nous faisons appel à ta bonté. Nous nous réfugions en toi. Tu es notre berger. Tu pourvoiras à tous nos besoins. Guéris-nous de l'inquiétude, Seigneur. Et aide-nous, Saint-Esprit, maintenant, mais aussi chaque jour des temps dans lesquels nous allons vivre. Aide-nous à refuser l'inquiétude qui vient et à te faire confiance. Nous voulons vivre sereins et confiants dans le berger qui prend soin de nous, dont les regards sont posés sur nous, qui connaît le nombre de cheveux de notre tête. Seigneur, aide-nous aussi à avoir les regards fixés sur toi, pas sur les écrans de fumée que ce monde nous donne, pas sur l'agitation, pas sur les choses de ce monde, mais que nos regards soient sur l'autre monde, sur ton royaume et ta justice, sur toi, Seigneur. Aide-nous à tourner les regards vers toi, à garder les yeux fixés sur toi. Je suis citoyen des cieux. Je veux choisir de changer mes priorités pour les tiennes. Tu vas t'occuper des choses. Tu n'es pas surpris. Tu n'es pas pris au dépourvu, Seigneur. Tu es souverain sur toutes choses. On nous fait croire, Seigneur, que l'ennemi a toute liberté pour faire ce qu'il fait. C'est faux. Tu es au-dessus de ces choses-là, Seigneur. Tu as un plan qui s'accomplit certainement. Nous te faisons confiance, Seigneur. Aide-nous à briller comme toi tu as brillé dans les temps sombres. Aide-nous à être en paix comme toi tu es en paix. À être des diffuseurs de paix, des artisans de paix, là où nous sommes. Afin que toute la gloire te revienne et que dans ces temps où beaucoup cherchent des réponses, nous puissions dire haut et fort que tu es la réponse dont ils ont besoin, Que ce soit un temps favorable, Seigneur, à l'annonce de l'Évangile, à la solidarité, à l'amour, à la compassion. Merci, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes. Amen.